Bonjour à tout le monde. Nous sommes rentrés hier soir après deux semaines de camp à Saint-Lunaire. Il y avait Cécile, Albert, Brigitte et moi. Deux semaines pleines d'activités et deux semaines avec beaucoup de travail pour Brigitte qui faisait le linge, qui était lingère pour 180 personnes. Et pour moi, j'ai prêché tous les matins et un soir sur deux. J'avais des réunions, donc c'était bien fatigant, mais on est content d'être ici de nouveau à la maison et chez vous, ce qui est chez nous. Là-haut, nous avons discuté avec une personne que certains connaissent, Marie Kallio-Joglou, et vendredi, son livre « Témoignage » est sorti. Donc ce livre, j'aurai 28 exemplaires dès demain, et elle m'a demandé de m'occuper de la vente de ses livres ici à Sonora. Elle parle de votre église, rue des Sèvres, il y a quelques années. Donc, si vous aimerez ce livre, ça coûte 12 euros. Et vous pouvez déjà commander aujourd'hui, et ou régler aujourd'hui, et je l'aurai dimanche prochain. Donc, pensez-y. Tout pour la gloire de Dieu. 40 ans d'Afrique. Oui, oui, Centrafrique, mais elle dit 40 ans d'Afrique, c'est le titre du livre. Elle était effectivement en Centrafrique pendant 40 ans, et il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de photos, et beaucoup de nouvelles. Bien, ce matin, j'aimerais lire avec vous un psaume. Il s'agit du 30, non, le 90, le 90. Comme vous savez, je ne suis pas là tous les dimanches, un dimanche sur deux, je suis absent. Donc, le dimanche, je suis là, aujourd'hui. Dimanche prochain, je serai là. Le dimanche après, je suis un week-end d'église à Caen, en Normandie. Le dimanche après, un autre week-end d'église à Grenoble. Le week-end après, je serai chez vous. Et le week-end après, je serai à Marseille. Donc, et après ça, deux ou trois semaines de suite, ici à la maison. Le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, comme une veille de la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Leur agitation n'est que peine et misère, et cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leur fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Le psaume 90. Quelques paroles d'introduction. D'abord, c'est le seul psaume que nous avons écrit par Moïse. Il y a des idées sur d'autres psaumes qui auraient pu être écrits par Moïse, mais il est écrit ici, psaume de Moïse. Ce qui veut dire que c'est certainement le psaume le plus ancien que nous avons parmi les 130 psaumes de notre Ancien Testament. Quand on regarde ce psaume et quand on lit les dernières paroles de Moïse dans Deutéronome 32 et 33, nous trouvons beaucoup de similitudes entre ce que dit Moïse avant de mourir et ce qu'il dit ici dans cette prière. Le thème principal de ce psaume, c'est le temps. Le temps et Dieu. Et pour nous aider à bien suivre ce psaume ce matin, je l'ai divisé en trois parties. Du verset 1 au verset 6, le temps, deux points, Dieu est éternel. Du verset 7 au verset 11, le temps, deux points, Dieu est saint. Et du verset 12 au verset 17, le temps, deux points, Dieu est bon. Rien de compliqué. Dieu est éternel, Dieu est saint, Dieu est bon. J'espère que nous sommes tous d'accord avec cela. Eh bien, regardons d'abord donc le début. Le tout premier verset, Moïse, homme de Dieu. Alors, je suis sûr que Moïse n'a pas écrit cela lui-même. C'est-à-dire la phrase, « Je suis un homme de Dieu ». Un homme de Dieu ne va jamais dire « Je suis un homme de Dieu ». Une femme de Dieu ne va jamais dire « Je suis une femme de Dieu ». Mais les scribes qui ont copié ce psaume ont dû penser « Mais c'est Moïse, virgule, homme de Dieu ». Ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où nous lisons « Moïse était un homme de Dieu ». Dans le livre de Josué, au chapitre 14, verset 6, nous lisons « Moïse, virgule, homme de Dieu ». Dans le livre d'Esdras 3, verset 2, nous lisons que Moïse est décrit comme un homme de Dieu. C'est comme si les gens, en pensant à Moïse, pensaient tout de suite, cet homme, malgré ses défauts, c'était un homme de Dieu. Vous avez peut-être remarqué que dans les évangiles, presque chaque fois que nous avons le nom de Judas, il y a une virgule et c'est marqué « Celui qui trahit Jésus ». C'est comme si on ne pouvait pas penser à Judas sans penser à ce qu'il a fait. Et quand on pense à Moïse, on dit « Mais c'était un homme de Dieu ». Un homme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons à peu près 80 fois cette description « homme de Dieu ». Trois fois au sujet de Moïse, et dans les livres de 1 et 2 rois, nous avons cette description 55 fois. Parfois, il s'agit d'un homme de Dieu qui est anonyme, on ne connaît pas son nom, mais un homme de Dieu vient, il parle, il s'en va. Et le roi qui écoute l'homme de Dieu, soit il obéit, soit il ne tient pas compte de ce que dit l'homme de Dieu. Et il y a certains rois qui tiennent compte des paroles de l'homme de Dieu, et d'autres qui ne veulent pas écouter l'homme de Dieu. Plusieurs fois, ce titre, cette description « homme de Dieu » est utilisée pour décrire soit Élie, soit Élisée. D'ailleurs, même une fois, une femme dit à son mari, au sujet d'Élisée, « Cet homme est un saint homme de Dieu. » Elle ajoute le mot « saint ». Intéressant. Moïse, donc, homme de Dieu qui écrit ce texte, et vous connaissez peut-être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Mais que nous en connaissions ou pas, je pense que nous devrions tous chercher à être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Moïse, dans ce psaume, il pense au passé. Il dit, Seigneur, tu as été un refuge pour nous. Le fait d'être un refuge, c'est un thème qui revient souvent dans les psaumes. Le fait que Dieu est un refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais lorsque nous sommes dans la détresse. Et il pense au passé, il pense aux générations passées. Et il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Et si Moïse était là ce matin, il dirait, aujourd'hui, Dieu est un refuge. Dieu est un appui. Pas seulement dans le passé, mais même aujourd'hui et à l'avenir, nous pouvons dire, Dieu sera notre appui, Dieu sera notre refuge. Donc il pense au passé, mais il va plus loin. Il pense même à avant la création du monde. Parce qu'il dit, d'éternité en éternité, même avant la naissance des montagnes, Vous savez que les montagnes sont nées un jour. Même avant la naissance des montagnes, tu es Dieu. C'est une confession de foi, une déclaration de sa foi. Il proclame, Seigneur, tu es Dieu. D'éternité en éternité. Au verset 3, il emploie deux mots pour décrire l'homme, ou si on peut dire, l'humanité. Il emploie un mot qui est traduit l'homme. Tu fais retourner l'homme à la poussière, verset 3. Ce mot, c'est un mot qui signifie, qui souligne la fragilité de l'homme. Plus loin, il dit que l'homme, c'est comme un murmure, la poussière, de l'herbe, des fleurs qui poussent et qui disparaissent. Les hommes, les femmes, on est fragiles. La fragilité de l'homme comparée à l'éternité de Dieu. Le deuxième mot qu'il utilise pour l'homme, c'est le mot Adam. Fils d'Adam. Retourne à la poussière, ou au pluriel, retourner à la poussière. Alors, je crois que c'est le seul endroit dans la Bible où nous avons ce terme « fils d'Adam ». Et pour ceux qui sont des fans des livres et des films de Narnia, vous avez peut-être remarqué que dans ces films et dans ces livres de C.S. Lewis, on parle aux enfants, au début de ces films, comme des fils d'Adam. Lewis a dû prendre ce terme de ce verset dans la Bible. Nous sommes tous des fils et des filles d'Adam. La semaine dernière, au camp Jeune et Famille à Saint-Nulaire, j'ai discuté avec un papa et j'ai dit, comment tu t'appelles? Il me dit, Thierry. J'ai dit, ah oui. Et ton fils, comment il s'appelle? Il me dit, ah, je suis le père d'Adam. Mon fils s'appelle Adam. Et j'ai dit, ah, mais tu es le père d'Adam, mais je suis le fils d'Adam. Il m'a regardé et puis j'ai fait allusion à ce verset. Il est à la fois père d'Adam, son gamin de 10 ans, et fils d'Adam, comme nous tous. On est tous fils et filles d'Adam, on est tous fragiles. Mais dans ces versets 4 aussi, il est question du temps. Et ce verset est cité dans 2 Pierre. 1000 ans comme un jour. Un jour comme 1000 ans. Un point que vous ne devez pas oublier, 2 Pierre 3, 8, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Autrement dit, Dieu ne calcule pas le temps comme nous calculons le temps. Dieu, parfois, il est pressé, on peut dire. Parfois, Dieu agit lentement. Nous sommes très souvent pressés, impatients, mais ne calculons pas le temps comme ça. Dieu calcule le temps autrement. Dieu a du temps. Il a tant de temps. Et il nous encourage à nous attendre et être patients. Parfois nous disons, le temps passe vite. Parfois nous disons, oh, qu'est-ce que le temps est long. Surtout quand on souffre, ça passe toujours lentement. Et quand on s'amuse bien, le temps passe vite. Mais pour le Seigneur, le temps n'est ni lent ni rapide. Dieu a du temps. Il ne calcule pas comme nous. Et il nous encourage à nous mettre à son écoute en ce qui concerne nos joies et nos peines. Moïse souligne encore la fragilité de l'homme en comparant l'homme à l'herbe. Et encore, c'est Pierre qui cite ce verset, non pas dans 2 Pierre cette fois-ci, mais dans 1 Pierre, quand il dit « Toute chair est comme l'herbe ». Toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, qu'est-ce qui demeure éternellement? La parole de Dieu demeure éternellement. 1 Pierre 1, 24, 25. Le temps. Dieu est éternel. Il est en dehors du temps. Il nous regarde et il nous encourage à calculer selon ses calculs. Et à être patient, et à agir vite quand il faut agir vite, et être patient quand il faut être patient. Versets 7 à 11, le temps, Dieu est saint. Il est question ici de la sainteté de Dieu. Vous savez, quand on parle des attributs de Dieu, on peut diviser ou distinguer deux catégories d'attributs de Dieu. Il y a les attributs qui sont, on peut dire, particuliers, c'est-à-dire ceux que Dieu seul possède, il est les attributs partagés. ceux qui veulent partager avec nous, j'ai donné des exemples, des attributs particuliers que Dieu se possède, il y a l'omniprésence. Nous ne serons jamais omniprésents. L'omnipotence. Nous ne serons jamais omnipotents. L'omniscience. Nous ne serons jamais omniscients. Même si parfois on rencontre des gens qui croient qu'ils savent tout. Mais c'est loin de la vérité. Mais parmi les attributs partagés, qu'il veut que nous reflétions, eh bien, Dieu est amour. Nous devons montrer l'amour. Dieu est bon. Le chrétien doit être bon. Dieu est saint. Le chrétien doit être saint. Et ici, il est question de sa sainteté, il est question de sa colère, de sa fureur, de son courroux. Vous savez, il y a un lien étroit entre la sainteté de Dieu et la colère de Dieu. Moïse était conscient de la sainteté de Dieu et il sait que si on mettait nos fautes devant le Seigneur, si Dieu en tenait compte, eh bien ce serait la colère, le courroux, la fureur de Dieu. Mais étant donné que Dieu est aussi juste et bon et amour, il ne met pas nos fautes devant lui. Où est-ce qu'il met nos fautes? Derrière son dos, sous ses pieds, au fond de l'océan. Trois versets bibliques dans l'Ancien Testament nous disent cela. Quand il nous aime, quand on demande pardon, il ne met plus nos fautes devant lui. Mais Moïse était conscient que parfois dans l'histoire de son peuple, ils étaient coupables de désobéissance et de péché. Peut-être pensez-vous à quelques épisodes pendant l'Exode, lorsque le peuple de Dieu s'est rebellé et Dieu a montré sa colère, sa fureur, son courroux. Peut-être qu'il a pensé à l'épisode même lorsque la terre s'est ouverte et a englouti tous ceux qui râlaient. Heureusement que Dieu n'agit pas de cette manière-là aujourd'hui, n'est-ce pas? Tous ceux qui râlent. Si la terre s'ouvrait chaque fois qu'un chrétien râlait, je crois bien que nos églises seraient presque vides. Heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Mais il a agi comme ça dans le passé pour montrer que c'est quelque chose de grave. Dieu est un Dieu saint. Et dans ces versets, il est question de sa colère et du fait que aussi, je pense que si Dieu est saint, il y a des conséquences pratiques dans la vie du chrétien. Le chrétien doit marcher dans la sainteté. Soyez saints, Lévitique 19, comme je suis saint. Ce verset est répété dans 1 Pierre, chapitre 1. Le chrétien doit marcher dans la sainteté, il doit prier pour avoir un cœur saint, un cœur pur, et il doit haïr le péché. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Le psaume 97, verset 10. Dieu est saint. Ça peut nous paraître bizarre de voir ces mots colère, courroux, fureur, mais on le voit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ces mots. Même dans le psaume 2, un psaume que nous avons médité il y a quelques semaines ici même, un dimanche matin, il est écrit que Dieu est au ciel, assis dans les cieux, il regarde, il rit quand les gens se moquent de lui, il se moque des moqueurs, et puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans son courroux, dans sa fureur. Dieu est à la fois bon, il est amour, mais il est saint. Et il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Et des choses que le chrétien ne doit pas tolérer dans sa propre vie. Il y a des conséquences très pratiques si on croit que Dieu est saint. Donc, le temps, Dieu est éternel. Le temps, Dieu est saint. Et dans les derniers versets, le temps, Dieu est bon. Dieu est bon. Moïse était convaincu que Dieu était éternel. Pas de début, pas de fin. Il était convaincu que Dieu était saint, parfait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Il savait que Dieu était en dehors du mal. Et il savait aussi que Dieu était un Dieu bon. Et après avoir penser à la colère de Dieu dans ces derniers versets. Il pense à la compassion de Dieu. Même la tendresse de Dieu. Vous vous rendez compte? Il médite la colère de Dieu et puis il médite la tendresse. Il aurait presque pu l'appeler notre bon Père Céleste. La tendresse de Dieu. La compassion de Dieu. Et dans ces derniers versets, il dit tout simplement, Seigneur, la vie est courte. 70 ans, 80 ans, c'est quoi? C'est rien. Seigneur, la vie est courte, donc enseigne-nous. Seigneur, la vie est dure, donc rassasie-nous. Seigneur, la vie est futile, donc utilise-nous dans ta bonté. Dans ces versets, il y a plusieurs requêtes qu'on peut résumer en deux phrases. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça veut dire quoi? Bien compter nos jours. Eh bien, ça veut dire tout simplement, Seigneur, enseigne-nous à bien vivre. Cela ne veut pas dire, enseigne-nous à être des bons vivants. Il y a plein de bons vivants qui ne vivent pas bien. Surtout le lendemain et le surlendemain. Mais enseigne-nous à bien vivre. Et on va y revenir. Mais on peut aussi prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un homme qui a sorti de sous sa chemise une corde autour de son petit, un morceau de ficelle, on va dire, autour de son cou, avec plein de médaillons. Il me dit, David, tu vois, j'ai pris Saint-Christophe pour telle chose, j'ai pris Sainte-Thérèse pour telle chose, j'ai pris la Vierge. Et j'ai dit, mais tu sais, la Bible dit, les disciples viennent voir Jésus et disent, enseigne-nous comment prier. Luc 11. Et Jésus dit, quand tu pries, dis, notre Père qui es aux cieux. Et j'ai dit, jamais je prierai un médaillon, une médaille ou une statue. On doit prier notre Père qui es aux cieux. Et on doit prier, Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à travailler. Enseigne-moi à témoigner. Enseigne-moi à être un bon parent. Enseigne-moi à être un bon grand-père. Enseigne-moi à être un bon travailleur. Et enseigne-nous à bien compter nos jours signifie aussi enseigne-moi à vivre avec sagesse. C'est ce qui est marqué ici. Dans une autre version de la Bible, il est écrit enseigne-moi à marcher avec circonspection. Alors, circonspection, ce n'est pas un mot que j'emploie tous les jours. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire, circonspection? Ça veut dire tout simplement savoir où on met les pieds. Je vous donne un exemple plus bête. Pendant un temps, nous avions un chien et un chat. Si on mettait la gamelle du chat là-bas, ou du chien d'abord, on va parler du chien d'abord, là-bas, et le chien ici, et on lui dit, reste assis, reste assis. Si on casse une bouteille de verre entre l'animal et la gamelle, le verre est là, on dit au chien, reste assis, reste assis, et il est en train de baver parce qu'il veut aller manger. Et quand on dit, va manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va foncer comme un malade. Et il ne va pas faire attention au verre, il va courir dans le verre, se couper les pattes et manger. J'ai fait l'expérience, mais pas expert. Avec un chat, qu'est-ce que le chat va faire? Tu casses le verre, tu dis au chat, reste. Bah, le chat est moins obéissant, il est moins intelligent qu'un chien. Mais tu dis, reste là. Et après, tu lâches, et le chat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter les morceaux de verre. Il va marcher avec circonspection. Même s'il crève la dalle, même s'il a très faim, pardon, eh ben, il va pas courir comme un malade, il va marcher avec sagesse et prudence. Et puis, il va manger sans se couper les pattes. Parfois, les chrétiens foncent comme des malades sans réfléchir. D'où l'importance, Moïse dit, enseigne-nous à marcher avec sagesse, avec circonspection, avec vigilance, avec prudence. Enseigne-nous, Seigneur, et aussi ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Voir quoi? Eh bien, voir trois choses. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta bienveillance. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et si on pense à la bienveillance de Dieu dès le matin, Moïse dit, on sera triomphant et joyeux. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas triomphants et pas joyeux? Eh bien, très souvent, c'est parce que le matin, ils pensent à tout, sauf à la parole, sauf à leur sauveur et à leur maître. Si on se concentre sur la bonté de Dieu dès le matin, ça nous aide à être joyeux et triomphants. Ensuite, il dit, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ton œuvre. Verset 15, verset 16. Fais-nous du bien, que ton œuvre apparaisse à nos yeux. Et il est important que les chrétiens sachent ce qui se passe en dehors de son petit monde. Il est important d'avoir des visites des missionnaires. Et plusieurs fois par an, dans cette église, il y a des missionnaires qui viennent, qui parlent d'ailleurs. Que ce soit Gabi, que ce soit Nathalie au Tchad, que ce soit le frère en Algérie et d'autres. Il est important qu'on pense à ce que Dieu fait ailleurs, en dehors de notre petit monde et plus loin que notre petit nombril. C'est pourquoi Moïse dit, mais Seigneur, enseigne-moi, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu fais ailleurs. Et je vous encourage, si vous ne visitez pas des sites évangéliques ou si vous n'avez pas d'abonnement à des revues, de vous abonner à des revues missionnaires, à des revues chrétiennes, pour savoir ce qui se passe en dehors de la rue Sonora. C'est formidable ce que Dieu fait dans la rue Sonora, mais c'est formidable de savoir ce que Dieu fait ailleurs. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir un peu plus ton œuvre. Et puis la troisième chose, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta tendresse. Que ta tendresse soit sur nous. Que ta douceur soit sur nous. Verset 17. Que ta tendresse, que la tendresse, que la douceur du Seigneur soit sur nous. Moïse était connu comme un homme saint, un homme de Dieu, mais aussi l'homme le plus doux de la terre. La douceur chez les chrétiens. Il y a parfois des chrétiens qui ont une tête qui ferait fuir un régiment. Pas de douceur. Et le Seigneur nous encourage à avoir pas seulement une tête, mais un cœur doux. La douceur. Je conclue en disant que notre façon de vivre va déterminer notre façon de mourir. Ici, les questions du temps. Dans Éphésiens 5, nous lisons « racheter le temps ». Et je me demande, mais est-ce que nous utilisons bien le temps à notre disposition? On a tous 24 heures, si je ne me trompe, dans la journée. Comment est-ce que nous passons notre temps? Mais j'ai qu'une traduit le verset d'Éphésiens 5, racheter le temps, de la manière suivante. Puisez jusqu'aux dernières possibilités le temps ou les occasions qui vous sont offertes. Intéressant. Il s'agit de ne pas perdre du temps, mais d'utiliser le temps. La Bible nous dit, le temps est mauvais. La Bible nous dit, le temps est court. La Bible nous dit, le temps est proche. Le temps du retour du Seigneur. Mais pendant que nous avons du temps, ou si on veut, tant que nous avons tant de temps, qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Un frère africain m'a dit un jour, les Européens ont tous des montres, mais ils n'ont jamais du temps. Nous, les Africains, on n'a jamais de montre, mais on a toujours du temps. Alors, est-ce que les frères africains ici présents vont me contredire? En tout cas, il y a un chant qu'on chante avec les enfants, comme le temps passe, 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 tic-tac, 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 tic. Et le temps passe vite. Il y a, alors que j'allais dire quelque chose par rapport aux anglophones, les anglophones parlent du temps comme si c'était une capitale, ou du capital plutôt. On dit pas en anglais, attendez, je suis en train de réfléchir à ce que je veux dire là, mais je crois que je vais sortir le mauvais mot, donc je vais peut-être pas le dire. En tout cas, il faudrait revenir dimanche prochain. En anglais, quand on parle du temps, on parle de gaspiller du temps. Et on parle de mal dépenser le temps. Comme si le temps est quelque chose qu'on peut dépenser. En français, on parle de perdre, gaspiller le temps. Et spending time. Oui, on dépense le temps. Mais comment est-ce que nous passons notre temps? Je ne sais pas si vous savez, mais selon des études sérieuses, dans la ville de Lyon, en moyenne, un Lyonnais passe 43 heures par an dans des bouchons. 43 heures par an dans des bouchons. 43 heures. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un bouchon? On commence à fumer parce qu'on est en colère. La fumée sort de nos oreilles. En tout cas, des calculs ont été faits au sujet de notre façon de passer le temps. Et je vais vous lire les résultats de ces études. Ces études ont été effectuées avant l'ère d'Internet et d'e-mail. Mais je vous dis, comment est-ce qu'on passe notre temps? Selon une étude sérieuse, si je vis jusqu'à 70 ans, j'aurai passé 6 mois de ma vie à un feu rouge, à raison de 10 minutes par jour. Si je vis jusqu'à 70 ans, j'aurai passé 15 mois de ma vie au téléphone. 5 ans de ma vie dans une queue, la boulangerie, la poste, il y a toujours la queue. J'aurai passé 8 ans de ma vie devant la télévision, à raison de 3 heures par jour, entre l'âge de 3 ans et 70 ans. J'aurai passé 20 ans de ma vie en train de dormir. J'aurai passé 6 mois de ma vie dans une salle de bain, à raison de 10 minutes par jour. Pour les femmes, il faut multiplier par 5 ou 6. J'aurais passé 7 ans de ma vie au travail. J'aurais passé 6 mois de ma vie en train de lire mon courrier ou le journal, à raison de 15 minutes par jour pendant 55 ans. Entre mon entrée en maternelle et le jour où j'ai décroché mon bac, j'aurais passé 3 ans de ma vie sur un banc d'école. Si je lis ma Bible 10 minutes par jour, entre 15 et 70 ans, j'aurais passé 5 mois de ma vie avec mon nez dans la parole de Dieu. Si je passe 2 heures par semaine au culte, j'aurais passé 7 mois de ma vie avec des chrétiens. 2 heures par semaine au culte. Si je passe 1 heure, ça c'est mes calculs, si je passe 1 heure par jour sur Internet entre 10 et 70 ans, j'aurai passé 2 ans et demi devant mon ordinateur, en dehors du travail. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps, les amis? Prions. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, à bien vivre mes jours. Seigneur, ouvre mes yeux. Faisons nôtre la prière de Moïse. Seigneur, enseigne-nous à compter tes bienfaits, chose impossible. Enseignez-nous à compter nos jours. Enseignez-nous à bien vivre nos jours à ta gloire. Prions. Seigneur, merci pour cette belle prière de Moïse qui était conscient de son péché et du péché de son peuple. Et Seigneur, nous sommes conscients de nos péchés et nous te prions, Seigneur, de nous aider à vivre dans la sainteté, à aimer la sainteté. Aide-nous à fuir devant toutes les tentations que le diable met devant nous. Et aide-nous, Seigneur, à bien vivre nos jours. Aide-nous avec le temps que tu nous donnes. Pardonne-nous lorsque nous gaspillons notre temps, lorsque nous dépensons mal notre temps, lorsque nous perdons notre temps. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser le jour et le temps que tu nous donnes, que tu nous prêtes, afin que nous puissions marcher avec circonspection, sagesse, prudence et vigilance, afin que Jésus seul soit glorifié, car nous prions en son nom. Amen.